Yvan, comme vous l'avez si bien dit avant la pause, on va recevoir de nouveau Monsieur Godin, Guy-Henri Godin. Je rappelle que la semaine dernière, il nous a parlé de son hémophilie sévère avec laquelle il vit depuis l'âge de 10 mois. Donc, j'ai bien dit ça, là, c'est il était bébé au moment où on a découvert cela. De comment ça a influencé finalement à la fois son adolescence, sa vie d'adulte, de sa grande patience, puisqu'il a pris 8 ans pour, je dirais, adapter vraiment son environnement à sa situation. Et aujourd'hui, on le reçoit parce que c'est un homme très inspirant qui fait toutes sortes d'activités.
Oui,
il
est pas tranquille.
Et il va nous en parler aujourd'hui. Il n'est pas très tranquille, mm-hmm. Non. Alors, est-ce que ça vous dérange, Guy-Henri Godin, qu'on dise que vous n'êtes pas très tranquille?
Non, ça fait plutôt mon affaire.
Oui, hein, ça vous décrit assez bien.
Il y a tellement de choses à voir,
oui,
découvrir, améliorer en recherche médicale.
Oui.
Il y a toujours du travail à faire.
Oui. Alors, rebonjour et re-bienvenue. Peut-être avant qu'on parle de vos activités, je sais que vous avez fait du bénévolat, mais vous en faites encore probablement là, pour le VIH et le SIDA et peut-être d'autres causes, mais j'aimerais ça que vous m'en parliez un peu parce que ce bénévolat, si j'ai bien compris, vous a conduit à rencontrer la femme de votre vie.
Oui, c'est ça. Hélène, ma conjointe, elle est née à Terre-Neuve. Mais pour elle, on s'est rencontrés en faisant du bénévolat pour le SIDA. Elle avait un contrat avec Revenu Canada, puis elle habitait à Gatineau, mais elle venait souvent à Montréal ou à Québec, en autobus ou autrement, puis faire du bénévolat. Puis on sait que ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît, ça fait 18 ans qu'elle a déménagé, puis elle a appris le français pour être avec moi, qu'on forme un couple officiellement. Puis moi, j'ai commencé à faire du bénévolat quand j'avais 18 ans. J'étais encore au cégep, j'étais même pas encore admis à l'université, à la faculté de droit. Alors, en mai 2023, on m'a donné à Niagara Falls, en Ontario, une plaque pour me remercier pour 40 ans de bénévolat à ce moment-là pour la Société canadienne d'hémophilie. J'ai été le plus jeune président de la section Québec de la Société canadienne d'hémophilie pendant 4 ans. J'ai été sur le conseil d'administration pendant plus de 10 ans. Depuis 2 ans, j'ai recommencé à faire du bénévolat. Il y a un comité de défense des droits qui apprennent aux plus jeunes hémophiles qui n'ont pas vu le scandale du sang. Bien, on fait un devoir de mémoire de leur rappeler ce qui est arrivé à la fin des années 80, des années 90, c'est-à-dire qu'il y a du sang contaminé qui a été distribué, même si on savait qu'il ne fallait pas le faire, simplement pour sauver de l'argent et aller plus vite et tourner les coins ronds. Fait qu'il faut qu'ils appliquent on leur fait appliquer la devise que sur chaque plaque d'immatriculation, je me souviens. Parce qu'on leur dit ce qui est arrivé peut se reproduire, puis le sang, ça touche tout le monde. Alors, pas seulement les hémophiles, pas seulement les gens qui ont des dialyses rénales parce que leur rein ne fonctionne pas bien, il faut éliminer les toxines dans leur sang. N'importe qui a une intervention chirurgicale, un pontage coronarien ou plusieurs pontages, bien, peut être à recevoir des transfusions sanguines. Fait qu'on essaie de former nos membres pour ça. En plus, depuis 10 ans, bien, j'enseigne ou je co-anime des ateliers à l'Université de Montréal, à la faculté de la médecine et du domaine de la santé. Donc, il y a des physiothérapeutes qui joignent à nous, des nutritionnistes, des dentistes, des pharmaciens qui sont en 3e, 4e année d'études, donc qui achèvent leur formation. Puis le cours est obligatoire. Ça s'appelle la formation patient-partenaire. Donc, quand vous êtes hémophile, comme moi, depuis 60 ans, puis vous avez un bagage de vie puis d'expérience, bien, c'est important d'informer les gens, de répondre à leurs questions, puis qu'ils fassent en sorte de bien comprendre cette facette-là de la maladie. Il y a d'autres gens qui ont eu le cancer, il y a d'autres gens qui ont le diabète, la maladie de Parkinson, mais moi, je parle au nom des hémophiles. Puis également, depuis 12 ans, bien, je fais partie d'un comité fédéral qui est pour toute la recherche sur les maladies transmissibles par le sang, donc les infections, les ITS, là, les infections transmissibles sexuellement, mais surtout le VIH, SIDA, et les hépatites A, B et C, mais surtout l'hépatite C qui est la plus fulgurante, la plus dommageable. Alors, ça fait 12 ans que je fais ça un comité, les experts, les médecins, les chercheurs nous soumettent un projet de recherche de plusieurs centaines de pages, puis là, on le lit au complet, on s'assure que la version francophone a été bien traduite, qu'il n'y a pas d'erreur ou de coquille, puis là, souvent, on fait venir le chercheur devant nous, on donne une note sur 5 sur l'originalité, l'importance à ce moment-ci, mettons, disons, en 2025 pour la recherche, le SIDA. Ça, puis on a la chance de poser des questions aux chercheurs. Des fois, ils sont plusieurs, c'est au pluriel ou au singulier, le chercheur. Puis là, on dit quels sont les défauts du protocole de recherche, quels sont les avantages. Puis on discute. Puis des fois, il y a des gens qui sont en train de faire un deuxième doctorat, là, un deuxième PhD. Il y en a qui finissent le premier, qui font leur fellow, ce qu'ils appellent, qu'ils vont aller pratiquer pendant 2-3 ans dans un autre pays complètement pour avoir une idée du système, par exemple, du système canadien là, sur la santé, tout ça. Puis c'était vraiment très enrichissant. On se rend compte 2 fois par année en personne dans des villes canadiennes différentes à chaque fois. Puis on siège. Puis là, il y a d'autres comités comme recruter des nouveaux membres, aller chercher du financement. Le comité de la sécurité informatique, bien, nous, on était le CAC, le comité aviseur de la communauté des gens, des personnes séropositives là, au Canada.
Monsieur Godin, oui. je vais vous interrompre. Je m'excuse. On voit que vous êtes très, très passionné, très engagé dans tout ça, parce que j'aurais quand même quelques petites questions à vous poser. Oui. Bon, par rapport à tout ce travail, je comprends que vous êtes encore très, très impliqué dans le bénévolat, dans la cause, si je peux m'exprimer ainsi. Je sais que vous avez participé à un documentaire comparatif du scandale du sang en France par rapport au Québec. C'est un documentaire qui prévoit, je crois, 4 émissions d'une heure. Est-ce que ça s'appelle Du sang sur les mains, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui. Ça doit être diffusé à la fin mars, mais il n'y a pas de date.
Il n'y a pas de date encore. Ça va être diffusé sur une chaîne ou...
La canal Témoin, qui était avant Mademoiselle et compagnie, sur le Bellefibre. Bellefibre, c'est 11:38, le canal.
OK.
Il y a aussi sur Illico, mais moi, je ne suis pas familier avec Vidéotron ou Illico, là, mais ça devrait être sur les deux plateformes en même temps. Puis après ça, il va y avoir des liens sur le site Internet là, du canal Témoin.
OK. Et puis...
Sur Illico, c'est le canal 577.
Bon, OK. Alors, donc, c'est le canal 577 sur Illico. Quelle a été votre participation dans ce documentaire-là?
Bien, on me dit, ils ont été en France pour la toute première émission, puis ils veulent faire une comparaison entre la France et le Québec, parce que c'est le même genre de scandale du sang contaminé, c'est-à-dire ils ont été achetés du sang dans les prisons américaines quand il y a des pénuries là, à la fin de chaque été, là, ou à l'hiver après les fêtes, là, il y a des gens qui se blessent, des accidents d'auto, des accidents de ski. Donc, il y a plus de transfusions sanguines l'été et après au début du mois de janvier. Alors, ils ont été achetés du sang dans des prisons américaines, ce qui était pratiquement criminel. On sait que si on chauffe le sang à 80 degrés Celsius pendant 40 heures, ça élimine tous les virus, syphilis, gonorrhée, chlamydia, VIH, hépatite A, hépatite B, hépatite C, mais ils ne l'ont pas fait, ou moins rapidement que les autres pays développés du G7, ce qui était aussi là une erreur, une grande erreur. Alors moi, j'ai vécu tout ça, et quand j'étais le plus jeune, je suis devenu le président, le plus jeune président de la section Québec, de la société canadienne d'hémophilie, ben, j'étais avocat, j'ai pris ma retraite maintenant, mais j'étais avocat à cette époque-là, puis ils m'ont dit, ben, il va y avoir une commission d'enquête, on veut absolument qu'elle fasse parcourir tout le Canada puis qu'elle entende les témoignages des gens qui sont devenus séropositifs, puis la majorité sont des hémophiles.
Alors vous avez témoigné, c'est ça dans le documentaire, oui. Votre participation, oui. C'est de vraiment témoigner, d'agir comme expert d'une certaine façon.
Oui, j'étais un des procureurs de la commission, j'étais un des plaignants, quand on s'est plié au ministère fédéral de la Santé à cette époque-là, à la fin des années 80, puis là, ils ont créé une commission, fait que j'ai témoigné, puis j'ai contre-interrogé aussi d'autres experts, fait que j'ai eu plusieurs rôles dans cette commission. La commission Creever, avec un cas, c'est le juge en chef de la Cour d'appel de l'Ontario qui a procédé, malheureusement, il est décédé il y a 2 ans, mais c'est un homme d'expérience qui a présidé pendant 4 ans à la commission qui a siégé dans toutes les plus grandes villes canadiennes.
Vous avez aussi contribué, en tout cas, vous avez participé aussi à beaucoup d'émissions radiophoniques, télévisuelles. Vous avez aussi écrit des textes d'opinion dans les journaux et revues. Est-ce que vous continuez toujours à le faire?
Oui, je continue à en faire, mais ça me fait un peu mal au cœur parce que ce que je me fais répondre, surtout, bof, le sida, c'est devenu une maladie chronique. Vous prenez une pilule ou un médicament par jour, ils peuvent pratiquement vous maintenir indéfiniment si vous faites attention un peu, puis vous recevez, par exemple, vos vaccins, puis vous essayez de pas fréquenter en période d'épidémie les hôpitaux ou les aéroports parce qu'il y a beaucoup de gens dans ces endroits-là. Alors, si on fait attention, on dit, t'sais, les gens considèrent que c'est pratiquement banal maintenant de dire je suis séropositif ou j'ai le VIH parce que 37 ans, 38 ans, quand moi je l'ai su, ben, c'était pratiquement une sentence à mort. Mais là, maintenant, c'est comme une maladie qu'on traite là, assez efficacement. Fait que quand j'ai écrit des textes pour rappeler ce qui est arrivé il y a plus de 35 ans, pour me dire ben c'est bien écrit, on les garde en réserve, là, la cyberpresse puis le devoir, mais ce n'est plus aussi autant d'actualité que ça l'était.
Oui, OK. Donc, vous devez continuer votre combat autrement, d'où le documentaire qui sera diffusé au mois de mars, vous avez dit. Écoutez, on vous remercie pour votre témoignage, d'avoir été avec nous au cours de ces deux semaines. Yvan a une question, mon collègue.
Bien, ça me frappe depuis que vous nous avez raconté les différents enjeux que vous adressez. Avez-vous des loisirs?
Oui, moi, j'aime ça voyager. Cet été, j'ai été passer une semaine au lac Saint-Jean, à Saint-Félicien, dans un chalet qui est adapté pour les personnes comme moi, handicapées en fauteuil roulant. Tout ça, moi, je suis un passionné de hockey. D'ailleurs, mes initiales GSG, ça fait comme dans Go Habs Go.
Oui, oui, ça, c'est sûr.
Canadien. Fait que dans mon sous-sol, j'ai ce qu'on appelle un man's cave, là, une chose de collectionneur. J'ai plus de 420 articles reliés au Canadien de Montréal, des rondelles signées, des casquettes, des t-shirts, des mini-bâtons, des cartes de hockey, évidemment, puis des jerseys là, à longue manche là, des
oui,
Canadiens.
Oui,
là,
oui,
non?
Oui.
Alors moi, je collectionne ça depuis des années, puis je surveille attentivement pas mal toutes les parties de hockey, puis j'aime jouer aux échecs, puis j'aime beaucoup écouter de la musique, puis lire des livres, mais j'ai remarqué que mes lectures ont beaucoup diminué maintenant que l'Internet est là, parce qu'on passe tellement de temps à faire des recherches.
Ouais.
C'est tellement vrai.
Des renseignements qu'on passe moins... En tout cas, moi, je passe moins de temps à lire, puis je trouve que c'est pas une bonne chose. Fait qu'il faudrait que je diminue le temps d'écran puis reprendre mes bonnes vieilles habitudes que j'avais quand j'étais étudiant.
On est tous dans cette situation-là, M. Godin.
Mais depuis la mi-décembre dernier, vous devez être très heureux avec le Canadien de Montréal.
Oui, bien, ils ont vraiment augmenté leur taux de victoire. On dirait qu'ils ont pris 2-3 ans à mettre un nouveau système là, en place, puis à se débarrasser de joueurs qui étaient moins efficaces. Puis il y a des jeunes qui, évidemment, ça leur prend 2-3 ans, là, après qu'ils soient repêchés pour devenir efficaces et meilleurs dans le système de jeu. Mais on peut sentir que ça s'en va dans la bonne direction. Puis la seule chose qui m'inquiète ces temps-ci, c'est la recherche pour le sida. Vous voyez, les mots coupure sont à l'ordre du jour un peu partout. Là. Ils ont fondé l'Organisme Santé Québec pour couper 1,5 milliard seulement qu'au Québec.
C'est
un peu la même chose. Mm. Le système de recherche, comme on a connu depuis plus de 20 ans, tout est sur la table. Les comités vont être refaits. Puis je ne suis même pas certain de si je vais avoir un nouveau rôle, mais bon, ils savent que je suis là et qu'ils peuvent me contacter n'importe quand. Mais c'est, il y a de l'inquiétude dans l'air là, parce que c'est comme, ça fait 40 ans qu'on n'a pas trouvé de vaccin. Là. On en a trouvé 7-8 contre le COVID, mais on n'en a pas trouvé d'efficace contre le VIH. Alors, c'est inquiétant.
Bon, votre message est lancé. Alors, encore une fois, je vous remercie et on se reparlera certainement à un moment donné. Alors, bonne fin de journée.
Merci beaucoup. Bonne journée.